Bonjour à tous. Un homme à la une ce matin sur le point de prendre le Brésil. Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, poignardé pendant sa campagne, a écrasé le premier tour de la présidentielle. Nous serons en direct dans un instant avec notre envoyé spécial à Rio. Début de semaine à Rome pour Marine Le Pen un lundi avec Matteo Salvini, ministre et patron de l'extrême droite italienne. CGT, Sud et FO appellent de nouveau à manifester demain contre la politique d'Emmanuel Macron en attendant le remaniement. On en parle à 8h20 avec votre invité Nicolas.
Oui, il sera dans la rue effectivement. Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière, invité du grand entretien de la matinale 01 45 24 7000. Les réseaux sociaux, l'application France Inter pour vos questions et vos réactions.
À la une également l'apocalypse de Saint-Giec. Les experts du climat promettent le pire plus vite que prévu si on ne change pas radicalement de mode de vie. Le patron d'Interpol arrêté en Chine, accusé d'avoir touché des pots de vin. Le plein D5 ou de B7, il va falloir s'habituer. Ce sont les noms des nouveaux carburants à la pompe généralisés vendredi. Et puis nous irons rêver avec Miro au Grand Palais.
France Inter.
Comme une vague qui emporte tout sur son passage, des plages de Copacabana à Rio à la mégapole brésilienne de Sao Paulo, Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite à la présidentielle, amasse plus de 46% des voix au premier tour. Il est raciste, misogyne et homophobe, nostalgique de la dictature et admirateur de Trump. La gauche au pouvoir depuis 13 ans ne s'en relèvera peut-être pas.
Lula, c'est fini, cette révolution que vous voyez là, c'est un peuple qui se réveille.
Voilà, il exulte, cet électeur de Jair Bolsonaro, et nous sommes à Rio, en direct avec notre envoyé spécial Olivier Poujade, bonjour.
Bonjour Florence.
Olivier, les sondages avaient prévenu, les urnes l'ont confirmé cette spectaculaire percée du candidat d'extrême droite.
Oui, il faut bien se rendre compte que l'ancien militaire était il y a encore un an totalement en dehors des radars. Il n'avait que 4% d'intention de vote dans les sondages et le contexte a fait qu'il arrive largement en tête aujourd'hui. 12% de chômage, une violence endémique, le ras-le-bol des Brésiliens vis-à-vis des partis corrompus, une économie à plat. Les réponses de Bolsonaro sont radicales, autorité, libéralisation des armes, défense des valeurs traditionnelles et ultra-libéralisme.
Il ne nous reste à présent que deux chemins. Celui de la prospérité, de la liberté, de la famille. Et de l'autre, il nous reste le chemin du Venezuela.
Diaboliser la gauche sud-américaine, se servir de l'éviction de Lula de la course à la présidence pour occuper l'espace, Bolsonaro a parfaitement capté le sentiment de rejet vis-à-vis du Parti des travailleurs.
Mais d'ailleurs, Dilma Rousseff, l'ancienne présidente de gauche, candidate au Sénat, est éliminée dès le premier tour. Le Parti des travailleurs recueille 29% des voix. Sa victoire semble impossible désormais au second tour, Olivier.
Ouais, ce sera très très compliqué. Haddad aura besoin d'un véritable front républicain. Il a d'ailleurs appelé tous les autres candidats hier soir à le soutenir pour combattre le racisme, la misogynie, l'homophobie de Bolsonaro.
Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses en jeu dans le Brésil actuel. Beaucoup de choses sont en danger. C'est une élection peu commune, différente de tout ce qu'on a connu depuis 1989. Nous allons affronter ce débat avec une unique arme, l'argument.
Voilà, il lui reste 3 semaines pour reprendre le contrôle. Haddad sait que Bolsonaro n'est pas à l'aise dans le débat en face à face, que son adversaire n'a pas justement les arguments. Il compte s'appuyer là-dessus pour renverser la tendance.
Olivier Poujade en direct de Rio. Du dégagisme brésilien, on passe au dégagisme européen. Marine Le Pen est à Rome. Aujourd'hui, elle va rencontrer Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue, parti d'extrême droite, vice-président du Conseil italien et ministre de l'Intérieur, la voix de l'Italie depuis mai dernier. C'est l'autre tournée européenne parallèle à celle d'Emmanuel Macron qui cherche à rallier les progressistes avant les élections du printemps. Eux, Maxence Lambrecq, veulent emmener la coalition des nationalistes.
C'est la réunion de l'axe du mal, s'amuse un élu du RN. Il ne manque plus que le Hongrois Viktor Orban et la photo serait parfaite pour que Macron joue aux fléchettes. Ce matin, Marine Le Pen et Matteo Salvini s'affichent ensemble pour accentuer encore un peu ce clivage, prouver que leur alliance est solide à l'heure où Emmanuel Macron a encore du mal à fédérer son camp en Europe. Et pour montrer qu'il n'y a pas que la lutte contre l'immigration qui les unit, ils ont choisi de parler Europe sociale, croissance économique, l'un et l'autre penchent à gauche sur ces dossiers. Marine Le Pen est ravie de cette escapade, loin des affaires et des convocations en tout genre. Elle prend un peu de hauteur et va retrouver les joies d'un débat télé ce soir face à Pierluigi Bersani, l'un des ténors de l'opposition à Salvini. Preuve qu'elle veut faire de cette campagne un combat européen avec plus tard des meetings communs. Première étape pour l'instant, des comptes Twitter Marine Le Pen dans toutes les langues. Ils viennent d'être lancés. Celui en italien réunit pour l'instant 70 abonnés, tous francophones. À Rome, Maxence Lambrecq, France Inter.
La chronique d'un remaniement annoncé attendu entre aujourd'hui et mercredi, date du départ du président pour le sommet de la francophonie en Arménie. Les nouveaux entrants sont en train d'être passés au scanner de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui vérifie leur situation personnelle.
8h06, Florence, la fournée brûlante du GIEC.
Dernier rapport des experts du climat de l'ONU publié dans la nuit. Si l'on veut limiter la hausse des températures de la planète à 1,5 degré pour éviter les catastrophes, il faut agir vite et massivement, c'est-à-dire limiter ces émissions de CO2 de 45% d'ici 2030. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
2030, c'est demain. 45%, c'est énorme. Ça ressemble à une mission impossible.
Bah écoutez, pour l'instant, on va dire que la bataille est mal engagée, d'autant que les émissions mondiales de CO2 sont reparties à la hausse l'année dernière. Mais même si l'on baisse drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, ça ne suffira pas. Le rapport du GIEC nous dit qu'il faudra également extraire du CO2 de l'atmosphère pour stabiliser à 1,5 degré. Les océans et les forêts le font déjà. L'idée est de renforcer ces puits carbone naturels. Alors c'est planter des arbres, favoriser une agriculture qui séquestre le carbone dans le sol. Il y a aussi des solutions de géo-ingénierie plus controversées, comme fertiliser les océans. Ça consiste à déverser du fer pour stimuler la photosynthèse. L'autre option avancée par le rapport, c'est de développer des procédés industriels de captage et de stockage de CO2 autour des gros émetteurs, les centrales à charbon, les aciéries, les raffineries. Une technologie encore peu développée, trop coûteuse. Aujourd'hui, un cimentier n'a pas intérêt à s'équiper d'un système de captage de CO2. Pour l'y inciter, il faudrait un prix carbone beaucoup plus élevé. Le rapport du GIEC est d'ailleurs prudent. Les solutions d'extraction de CO2 de l'atmosphère n'ont pas encore fait leur preuve à grande échelle. De leur côté, les défenseurs de l'environnement craignent que ce ne soit des permis pour continuer de polluer.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement à France Inter. Voilà qui contribue largement au réchauffement climatique. La pollution des navires et des cargos. Premier procès à Marseille aujourd'hui d'un capitaine de paquebot de croisière. Et puis le fuel de ses moteurs dépassait les normes d'émission en soufre. Et puis quand deux navires se percutent au large du Cap Corse, des opérations de barrage débuteront ce matin pour contenir une nappe d'un kilomètre sur 300 mètres de large.
Il est 8h08, Florence. Qu'est-il arrivé à Monsieur Meng, président d'Interpol, disparu depuis son retour en Chine il y a 10 jours.
Hier soir, l'organisation qui émet les mandats d'arrêt internationaux a reçu une lettre de démission. La démission de M. Meng, sa femme depuis Lyon, siège d'Interpol, a dit craindre pour sa vie. Et M. Meng est très certainement à l'heure actuelle dans les geôles chinoises, Dominique André.
C'est inhabituel, mais cette fois, les autorités chinoises ont bien été obligées de répondre à une demande de clarification émanant d'une organisation internationale, Interpol, qui voulait savoir où se trouvait son président. Monsieur Meng est donc en Chine, comme l'avait révélé avant-hier le South China Morning Post, grand quotidien de Hong Kong. La commission centrale d'inspection disciplinaire du Parti communiste chinois, chargée de la répression de la corruption des fonctionnaires, a révélé que Meng Rongwei était visé par une enquête. Il est soupçonné d'avoir violé la loi. Quelle loi ? Aucune précision n'a été donnée. Monsieur Meng a été arrêté à la descente de l'avion il y a 10 jours. Il a juste eu le temps d'envoyer de son portable 2 messages à son épouse. « Attends mon appel », suivi d'un smiley représentant un couteau. Ce n'est pas la première fois qu'une haute personnalité disparaît des radars pendant plusieurs mois. On les voit réapparaître dans le cadre de procès. Monsieur Meng a fait sa carrière en Chine sous Zhu Yongkang, ancien patron de la sécurité intérieure chinoise, qui purge une peine de prison à vie. Pékin, Dominique André, France Inter.
Mais à l'instant, la Chine annonce que le patron démissionnaire d'Interpol est accusé d'avoir accepté des pots de vin. Elle a été assassinée après s'être intéressée de trop près à la corruption en Bulgarie. Viktoria Marinova avait 30 ans. Elle a été frappée, étranglée et violée. RSF exhorte les autorités bulgares à faire toute la lumière sur cet acte odieux. La fin d'un bandit ce week-end à Paris. Il s'appelait Sofiane Amli. Il a été abattu hier au petit matin dans le quartier des Champs-Élysées. Son nom ne vous dit rien. Pourtant, Corinne Audouin, c'était une figure du milieu.
Oui, Sofiane Amli était originaire de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Son beau-père, Youssef Kimoun, est entré dans les annales du grand banditisme avec le vol au musée Marmottan d'un tableau de Claude Monet, Impression Soleil Levant, en 85, suivi l'année suivante de l'attaque d'un fourgon blindé au Japon. C'était une première dans l'archipel. À bonne école, Sofiane Amli est soupçonnée de plusieurs braquages de fourgons dans les années 90-2000. Les enquêteurs appellent ce type de voyous les « beaux mecs », explique le journaliste Frédéric Ploquin, auteur du livre « Parrains et caïds ».
Sofiane Amli fait partie de ce qu'on appelle les beaux mecs. D'ailleurs, il est mort en chemise et costume. On n'est pas dans un règlement de compte de cité habituel. On peut dire qu'à la fin des années 90, il était l'un des trois piliers émergents du milieu des cités. Il y avait le désormais célèbre Redouane Faïd, originaire du plateau de Creil, dans le nord de la région parisienne. Il y avait Antonio Ferrara, qui est devenu le roi de la Belle et qui était originaire du Val-de-Marne. Et il y avait Sofiane Amli, qui était le premier, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, le premier petit caïd à devenir un vrai voyou.
Sous le coup de trois mandats de recherche, la police lui court après pendant près de 10 ans avant de l'arrêter en 2004. Sofiane Amli est ensuite jugée pour 2 braquages de fourgons, l'un avec Redouane Faïd en 97, l'autre en 2002 avec des proches d'Antonio Ferrara. Il est acquitté les 2 fois. De sources policières, Sofiane Amli s'était rangée des braquages pour se tourner vers l'escroquerie, des activités peut-être à l'origine du règlement de compte qui lui a coûté la vie, à moins que son passé ne l'ait rattrapé, peut-être une histoire de butin mal partagé.
Audouin, et pour rester dans le milieu, 3 complices de Redouane Faïd en garde à vue depuis la fin de sa cavale mercredi ont été mis en examen et placés en détention. Parmi eux, la jeune femme suspectée d'avoir logé le braqueur. C'est grâce à son téléphone que la police est remontée jusqu'à lui. À la pompe à essence, adieu le sans-plomb et le diesel. Bonjour le E5 et le B7. Les carburants changent de nom ce vendredi. Les stations-service doivent appliquer la réglementation européenne qui impose les mêmes noms dans toute l'Union, mais les motards et les automobilistes que Thibault Lefebvre a rencontrés ne sont pas encore tout à fait au point.
Lunettes de soleil de marque et robe noire, Claire verse du sans-plomb 95 dans le réservoir de son 4x4 hybride. Cette commerciale ne comprend pas l'intérêt de la réforme.
Je pense qu'il y a des risques d'erreur. Mettre du diesel à la place du sans-plomb par exemple, c'est pas clair quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas le diesel GO pour gasoil, comme on l'a toujours rappelé sur les cartes grises par exemple?
Pas de GO donc, mais la lettre B entourée d'un carré pour le diesel, un cercle et le E pour le sans-plomb, suivi d'un numéro, le 5, le 7 ou le 10 pour la teneur en biocarburant. Et même si les couleurs ne changent pas, les professionnels ont eux aussi du mal à s'y retrouver. Rui conduit une moto-taxi depuis une dizaine d'années.
Je vois E5, je savais même pas ce que ça voulait dire quoi. Et après, il y a, bon, là, le gasoil, ça va être compliqué parce que gasoil R7, non, B7, B10 et XT, là, ça va être compliqué pour le diesel, là.
Compliqué, mais pas pour tout le monde. Loïc est restaurateur et il voyage régulièrement en Europe.
Ce sera très bien pour les étrangers. Parce que c'est vrai que ça peut pas être clair pour certaines personnes sur le diesel parce que il n'y a qu'en France, ça s'appelle le diesel. À l'étranger, c'est gasoil, gasoline, gaz. Et c'est vrai que ça peut paraître plus clair pour tout le monde. Au moins comme ça, ce sera uniforme.
Selon les distributeurs, toutes les stations-service ne seront pas prêtes vendredi. De quoi laisser un peu plus de temps aux automobilistes pour s'habituer aux nouvelles appellations.
Vous avez retenu, Nicolas, vous mettez quoi dans votre moteur?
J'ai pas de voiture.
Bon. Dommage.
Du B5, c'est du, voilà. Non, B7, pardon, comme les vitamines.
Prodigieux Kylian Mbappé hier soir avec le PSG, il a marqué 4 buts sans gasoil hein, en moins d'un quart d'heure contre Lyon, battu in fine 5-0 en Ligue 1 du haut de ses 19 ans, le champion du monde inscrit le quadruplé le plus rapide de l'histoire du championnat, 13 minutes seulement Jérôme Val.
La célébration a duré de longues minutes à la fin du match. C'est difficile d'arrêter Kylian Mbappé. Il a dansé devant le Cop des Ultras, a donné son maillot, tout sourire, s'est jeté dans les bras de Neymar. À 19 ans et 9 mois, l'attaquant parisien a illuminé une rencontre où le PSG a été bousculé pendant une heure de jeu. Du bonheur pour les supporters.
Il aurait pu en marquer plus, hein. S'il marque tout, il en met 6. Hein.
Et voilà la marque des grands de l'aveu même du gardien lyonnais. Mbappé a été longtemps muet avant de trouver la faille à la 61e minute de jeu, puis à la 66e, 68e, 74e. Pas étonnant pour Raphaël.
Il court très très vite, il fait des beaux matchs, il est très très fort.
Le Français est déjà sur la trace de tous les records. Déjà 8 buts en 5 matchs de Ligue 1. Pour Mickaël, il peut devenir le meilleur.
Il reste encore jeune, bien évidemment. Je pense que Zidane, il a réellement prouvé son talent un peu plus tard. Mais effectivement, Il a tout l'avenir pour prouver qu'il peut être bien meilleur que Zidane.
Meilleur au point de briguer le Ballon d'Or à la fin de l'année, l'intéressé lui-même y pense, Kylian Mbappé.
Pourquoi pas, je ne donne pas d'interdit, voilà, je vais continuer à progresser, à jouer, à être performant pour l'équipe, si ça vient, ça vient, et après, voilà.
Comme le PSG, Mbappé depuis hier soir sur une autre planète.
Le PSG qui signe sa 9e victoire d'affilée en championnat.
Ces tableaux sont comme des rêves éveillés.
Mais oui, bienvenue dans l'univers de Miro au Grand Palais. Le peintre surréaliste catalan s'y expose en 150 toiles, dessins et sculptures. Et Isabelle Pasquier, 100 ans plus tard, c'est toujours la magie de cette œuvre qui saute aux yeux.
Une tache bleue comme un nuage avec ce commentaire. Ceci est la couleur de mes rêves. Surréaliste, Miro a l'art de réinventer le monde. Devant nous, des femmes et des oiseaux dans la nuit. Sur cette toile, dans un ciel bleu, des traits noirs et des formes organiques, jaunes, rouges. Miro a traversé les deux guerres mondiales, la guerre civile espagnole, la dictature et l'exil. Mais sur ses toiles, avec poésie, il invente un langage et il réenchante le monde.
Je suis très pessimiste, mais c'est par cette même raison que, comme je travaille, je vais m'évader de ce pessimisme et j'atteins un optimisme. En même temps de l'homme, oui, de cette marionnette.
Miro se moque de l'homme, cette marionnette qu'il veut emmener dans une dimension plus spirituelle. Et c'est le sommet de cette exposition. Trois gigantesques toiles bleues, enfin réunies. Bleues avec quelques taches noires, entre vide et plénitude. Rencontre avec son petit-fils, Juan Punier Miro.
Miro était un peintre très spirituel. Existentiel. Il voulait assassiner la peinture, aller dans une cinquième dimension, dans le monde de rêve. Et c'est seulement grâce à la poésie française et à la musique que Miro est rentré dans une toute nouvelle dimension.
À la fin de sa vie, le noir envahit les toiles de Miro, qui va jusqu'à les brûler au chalumeau, peut-être pour aller encore plus loin, au-delà du monde visible.
Miro, ceci est la couleur de mes rêves. Nicolas, c'est le nom de l'exposition au Grand Palais jusqu'au 4 février.
Merci Florence Paracuelos.